Nous abordons maintenant la passion du Seigneur Jésus-Christ avec les indications que j'avais mises après cela pour orienter un petit peu les idées sur l'étude que nous proposions sous ce titre. Alors, il y a Gethsémané, Golgotha, et j'avais ajouté le monde bouleversé par la mort de Christ. Gethsémané, Golgotha. Le récit de la passion est en effet l'ensemble des témoignages que nous rapportent les évangiles, les quatre évangiles, sur les événements qui mettent fin au ministère terrestre de Jésus-Christ et, après une lutte gigantesque contre la puissance des ténèbres à Gethsémané, nous verrons que Gethsémané est cette lutte gigantesque, et après sa crucifixion, cette passion, puisqu'on la nomme ainsi généralement, lui assure une victoire éternelle sur la puissance du péché et sur la mort. La passion est donc le dénouement du ministère de Jésus. Je dis dénouement parce que la lutte était déjà commencée. La lutte ne commence pas à Gethsémané, elle se termine là. Mais à Gethsémané, ce fut une lutte gigantesque, dont nous ne pouvons pas avoir l'idée. Tout doit s'accomplir, se faire, se dénouer dans le monde spirituel. C'est dans, disons, les régions de l'esprit que tout doit se régler. Ce n'est pas dans des luttes charnelles pour faire opposition aux luttes spirituelles, mais uniquement dans une lutte spirituelle que tout doit être réglé. Gethsémané, c'est le combat spirituel final, non pas, comme on l'a dit sottement, alors ça nous introduit dans une difficulté épouvantable, non pas une lutte entre Dieu et Satan, parce que la lutte entre Dieu et Satan, c'est vite réglé, nous allons le voir. C'est une lutte entre le Fils de Dieu, entre la parole de Dieu incarnée dans son incarnation, dans sa chair, dans cette humanité qu'il prend là comme un creuset pour y forger l'homme nouveau. Mais à travers une lutte, puisque l'homme nouveau va être obtenu d'une matière première, qui est l'homme pécheur. L'homme pécheur, c'est la matière première, qu'il faut changer, transformer, mais attention, par le moyen d'une lutte. Alors c'est une lutte entre le Fils de Dieu et l'adversaire, Satan. Jésus combat pour l'humanité tout entière. Satan, bien entendu, veut maintenir et affirmer sa domination sur la terre et le monde des hommes. Cela, c'est clair pour nous. Le Seigneur Jésus l'a appelé le prince de ce monde, ou le dieu de ce siècle. Le dieu de ce siècle, vous voyez, il a donc une position comme un dieu. D'ailleurs, il n'a pas peur de dire à Jésus, je te donne tous les royaumes de cette terre, si tu te prosternes et m'adores. Voyez-vous qu'il entend bien occuper la place d'un dieu. Il s'est fait l'égal du Très-Haut et il veut exercer une autorité et une puissance de, je ne dirais pas de nature divine, mais ressemblant, prenant la place de la puissance divine. Il a donc une position de Dieu dans ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. Ce siècle veut dire ce temps. Dans le grec, c'est aion, et cela veut dire, n'est-ce pas, une longue période, une période, une grande période, et qui va se terminer quand le Seigneur Jésus, bien sûr, reviendra sur cette terre. Alors, présentement, le royaume de la terre, si on veut dire, n'est-ce pas, en opposition à la notion de royaume de Dieu, eh bien, le royaume de la terre n'est pas celui de Christ, mais celui de Satan. C'est le royaume de Satan. Quant au royaume de Dieu, lui, il est venu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a pu dire le royaume de Dieu et s'est donc approché, le royaume de Dieu est venu. Et il a montré le doigt de Dieu qui signifiait la venue, l'intrusion, on peut dire, du royaume de Dieu en plein royaume de Satan. Et le royaume de Dieu s'étant introduit sur la terre, il y a eu, bien entendu, immédiatement, une lutte entre les deux royaumes. D'ailleurs, en anglais, il y avait un ouvrage, mais je ne me rappelle plus de qui était assez bon et qui s'intitulait « La lutte des deux trônes ». C'est bien, c'est vu ainsi, c'est bien vu ainsi, n'est-ce pas? Il y a un royaume qui vient, et naturellement, il y a une lutte. Imaginez, dans les guerres que nous avons connues, une armée venant et constituant une tête de pont sur une autre rive. Eh bien, alors immédiatement, n'est-ce pas, bien sûr, ceux qui occupent le terrain se mettent à lutter. Alors, il y a lutte, et cette lutte va se poursuivre jusqu'à la fin de cette aion, de ce siècle, mais Jésus vient assurer la victoire du royaume de Dieu, et par conséquent la victoire des hommes, puisque le royaume de Dieu vient pour eux, la victoire de façon décisive. Il s'agit donc d'une lutte du Fils de Dieu contre Satan, une lutte de l'humanité pure de Jésus pour le compte de l'humanité. La divinité de Jésus ne va pas entraver cette lutte, ne va pas venir avec toute sa puissance, et la puissance de Satan n'est rien devant la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu, la divinité du Seigneur Jésus ne va pas venir entraver cette lutte, empêcher cette lutte. Il faut qu'elle se fasse dans l'humanité de Jésus. L'humanité de Jésus est pour cela, pour qu'il y ait en elle une lutte. Il faut bien comprendre cela. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme aussi, les hommes sont libérés du péché et de la mort. Le péché et la mort sont venus par un seul homme, et c'est un seul homme aussi qui devra le faire dans sa personne. Satan a consommé notre tragédie, notre malheur, dans sa personne à lui. C'est dans sa personne. Et il nous a transmis cela. Nous sommes nés à son image. Il nous a transmis cela. Donc, c'est dans la personne du premier Adam que tout le malheur de l'homme s'est forgé, et c'est dans la personne du dernier Adam, c'est dans sa personne que cela va se faire. Donc, dans une personne humaine. Cette personne humaine, bien sûr, est liée à la parole de Dieu, à l'être divin qui se nomme Parole de Dieu, le Fils éternel de Dieu, mais il y a là la divinité qui est une, la divinité bien en Jésus-Christ, mais elle laisse évidemment, n'est-ce pas, la lutte, c'est son plan. C'est le plan de la divinité. Elle laisse la lutte se faire dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est tellement vrai que c'est la personne humaine de Jésus-Christ qui doit lutter, que il y a des grumeaux de sang qui tombent de son visage, et que, après cette lutte à Gethsémané, un ange vient pour le fortifier. Il faut que ce soit dans la personne humaine de Jésus. Bien sûr, la personne humaine de Jésus a certains caractères particuliers, je ne vais pas reprendre tout cela maintenant, mais disons une chose, c'est dans la personne de Jésus. C'est bien le Fils de Dieu, dans sa mission de Messie, qui doit lutter et remporter une victoire sur Satan et la puissance de Satan. Il le faut. Nous allons encore le dire et le montrer. Quand le temps viendra, la puissance divine n'aura pas besoin de lutte pour réduire Satan. Enfin, il y a des auteurs qui se sont posés la question, mais c'est une lutte de Dieu contre Satan, pourquoi? Quel mystère, une lutte de Dieu. Mais ils sont complètement à côté de la question. Dieu n'a pas besoin pour réduire Satan d'une lutte. Et la preuve en est que quand le temps viendra, la puissance divine s'exercera, ce sera par exemple à l'entrée du millénium, à l'entrée des mille ans, dans Apocalypse 20 et versets 1 et 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il n'y a pas besoin de lutte à ce moment-là. Quand c'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas, un ange même qui est armé de la puissance de Dieu et qui vient, n'est-ce pas, il saisit le diable et puis il le lie. Il n'a pas besoin de lutter. C'est donc bien, n'est-ce pas, dans l'humanité que Jésus va lutter, par son humanité. Dieu n'aura aucune difficulté. De même, à la fin, toujours dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, à la fin des mille ans, chapitre 20, verset 10. Et le diable, qui les séduisait, puisque le diable est délié pour un peu de temps, n'est-ce pas? Ça vient d'être dit. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Bien. Et alors, verset 10. Et le diable, qui séduisait les nations, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, où sont l'antichrist et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et ça, ça ne souffre pas de difficulté. L'heure est venue, Satan est pris, n'est plus jeté en prison, il est jeté définitivement dans l'étang de feu. Tout puissant qu'il est, n'est-ce pas, devant la puissance divine, il n'y a absolument rien, n'est-ce pas, et qui puisse résister. La puissance de Satan qui, vue de nous, de notre côté, est énorme, est très grande, hein, eh bien, devant la puissance de Dieu, elle n'est rien du tout. Elle n'est rien, vous voyez. Par conséquent, s'il y a une lutte sur le plan spirituel, il n'aura que des échecs. Il semble avoir pris des avantages quand le Seigneur Jésus est crucifié, que tout le monde l'abandonne, vu du côté de la terre, du côté des hommes. C'est bien, n'est-ce pas, les réflexions que l'on trouve dans l'Évangile. Mais alors, si tu es le Fils de Dieu, pourquoi ne n'emploies-tu pas ta puissance? Pourquoi ne descends-tu pas de la croix? Pourquoi ne manifestes-tu pas ton triomphe? Un triomphe, si tant est que tu puisses tenir un triomphe. Tu meurs là, c'est fini, tout le monde est parti. Il semble que tout ce qu'il a fait jusqu'à la croix, tout ça c'est fini, c'est révoqué, ça n'a rien donné, c'est un échec. Il semble que Satan ait un avantage. Mais sur le plan spirituel, dans la réalité spirituelle, Satan a perdu sur tous les tableaux, il n'a rencontré que l'échec, et il est lui-même arrivé à sa condamnation. Il faut que le monde et le prince de ce monde soient jugés, et que leur condamnation soit selon la loi de Dieu. Donc, ce n'est pas une lutte, parce que c'est écrit malheureusement dans certains commentaires, hein, une lutte de Dieu contre Satan. Si c'est une lutte de Dieu contre Satan, Satan, il ne reste pas là un centième de seconde. Ce n'est pas une lutte de Satan, de Dieu contre Satan, mais du Fils de Dieu dans son humanité, par son humanité, pour l'humanité, contre Satan. Vous comprenez que si Dieu résout le problème, et même s'il voulait résoudre le problème, il n'avait même pas besoin d'envoyer son Fils pour l'incarnation. Il n'avait qu'à prononcer le jugement de ce monde et puis c'était fini. On n'en parlait plus, Satan y compris. Hein. Par conséquent, il faut bien comprendre ceci, c'est ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que nous sommes en présence ici d'une lutte par le moyen de l'humanité du Seigneur Jésus. Cette humanité pure, magnifique, dans laquelle l'obéissance se rétablit, et il faut qu'elle se rétablisse, elle n'y est plus. Alors là, n'est-ce pas, c'est une lutte, Satan s'efforce de retenir l'humanité, et même l'humanité de Jésus, il s'efforce, n'est-ce pas, de la garder, pour garder tout le reste, et il échoue. Lisons dans Jean 12, 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Ici, le Seigneur annonce qu'il n'est pas très loin, à ce moment-là, de Gethsémané et de Golgotha, et il annonce que ce qu'il va faire va constituer le jugement de ce monde. C'est-à-dire la condamnation de ce qui est appelé le monde, c'est-à-dire le théâtre sur lequel s'exercent toutes les puissances des ténèbres. Y compris les hommes qui se tiennent dans les ténèbres et qui n'en veulent pas sortir, et y compris le prince de ce monde, y compris Satan. Donc maintenant a lieu, ou va avoir lieu, a lieu, dans quelques temps, dans quelques jours, le jugement de ce monde, et maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors, ce qui veut dire le jugement qui intervient déterminera l'acte de Dieu par lequel un jour Satan sera jeté dans les temps de feu. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de juger, il sera jeté dans les temps de feu. Pourquoi pas tout de suite? Nous allons le dire. Au chapitre 16 de Jean et au verset 11, là, je ne veux pas lire tout le contexte, le Seigneur dit que le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraclet, doit venir, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et dans le verset 11, il dit le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alors, le Saint-Esprit va convaincre le monde de jugement. Attention, dira-t-il, il y a une issue maintenant qui est préparée, qui est certaine, c'est celle du jugement, dans lequel on succombe, par lequel on est définitivement condamné et par conséquent définitivement écarté de la vie éternelle en présence de Dieu. Voilà, n'est-ce pas ? Il y a un jugement, et un jugement pourquoi ? Parce que le prince de ce monde est jugé. Si Satan n'était pas jugé, n'était pas condamné, et à l'issue d'une lutte dans laquelle il a tout perdu, s'il n'était pas condamné, eh bien, le jugement ne pourrait pas avoir lieu. Pour qu'il y ait un jugement, et ce jugement est un instrument indispensable pour le salut d'une partie de l'humanité, des hommes de foi, des hommes de bonne volonté, il faut qu'il y ait un jugement. C'est nécessaire. La sainteté, la justice de Dieu l'exige. Il faut un jugement. Eh bien, ce jugement, sur les hommes, et sur le monde, il ne peut avoir lieu que si vraiment le prince lui-même, le Dieu de ce siècle, est jugé et condamné. et il sera condamné selon la loi de Dieu. Selon la loi de Dieu. Il n'est pas condamné injustement, il est condamné selon la loi divine. Et devant la justice de Dieu, il a encouru toutes les foudres divines, toutes les foudres de la justice divine, et il est condamné. Et cela est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il fallait procurer à l'humanité une victoire définitive sur le prince de ce monde, sur le monde, dans son ensemble, le prince et son royaume. Il fallait remporter une victoire définitive pour sauver l'humanité. Pas toute, malheureusement, bien que Dieu avait envisagé tout, il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Mais ce n'est pas possible. Il y a des gens qui veulent absolument maintenir ce point de vue, c'est ce qu'on appelle l'universalisme. Et c'est faux, ça heurte même gravement le sens de la justice de Dieu. Ce ne sera pas toute l'humanité, et comme Dieu l'a dit dans le prophète Ésaïe, « Pour t'avoir, toi, l'Israël, c'est-à-dire l'Israël de Dieu, n'est-ce pas, pour t'avoir, toi, la postérité, disons, d'Abraham, je suis obligé de donner des hommes à ta place. Je suis obligé de consentir à ce que des hommes soient perdus. » Il est évident que Dieu aurait pu arrêter à un certain moment, plus tôt peut-être, la procréation sur la terre. Mais il veut se donner l'Israël de Dieu. Et pour se donner cet Israël de Dieu, c'est-à-dire ce Jacob, il est obligé de consentir à des pertes considérables. Et nous l'avons déjà dit, ce n'est pas volontiers que l'amour de Dieu consent à des pertes. Et c'est dans une sorte de tristesse concernant le cœur de Dieu que Ésaïe dit cela. Pour t'avoir, je suis obligé, je donne des hommes à ta place. Je suis obligé de donner des hommes à ta place, pour t'avoir toi. Alors quel prix n'as-tu pas à mes yeux? Il fallait que l'humanité une victoire pour qu'elle soit sauvée. Et nous voyons cela dans les Colossiens, chapitre 2, verset 13 à 15. C'est fort bien exposé ici. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. L'incirconcision. Votre chair était donc la proie de toutes les puissances des ténèbres. Elle était incirconcise, ça veut dire, autrement dit, qu'elle était livrée aux ténèbres. Elle était vendue. C'est un terme biblique. Elle était vendue, il faut qu'elle soit rachetée. Alors vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, c'est un acte de justice dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, y compris Satan, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Gethsémané et la croix, ensemble ici la croix est mentionnée parce que elle est le grand point d'orgue si vous voulez, mais Gethsémané compte aussi bien sûr. Alors il a dépouillé les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la foi. Vous voyez donc qu'il fallait triompher de Satan et de toutes les puissances démoniaques. Il fallait triompher d'elle pour délivrer l'homme, obtenir une victoire qui, elle, permet la grâce divine, la grâce du pardon, la grâce de l'affranchissement et de la délivrance. Point n'était possible, il faut que nous sachions cela, de détruire Satan et son royaume avant que l'humanité nouvelle ne soit formée. Ça répond à une préoccupation que peuvent avoir certains en disant, mais puisque Satan à la croix, lorsque le Seigneur meurt, il est déjà jugé, il est condamné, pourquoi ne l'expédie-t-on pas tout de suite dans l'étang ardent de feu? Alors nous allons montrer que ce serait là, bien sûr, quelque chose qui empêcherait précisément, entraverait le plan de Dieu qui se propose de sauver beaucoup d'hommes. Il n'était pas possible donc de détruire le royaume de Satan avant que l'humanité nouvelle ne soit formée. L'humanité nouvelle, c'est le corps de Christ et l'Église. Y compris tous ceux des anciennes dispensations, bien sûr, que nous voyons désignés dans Romains, Hébreux 11, chapitre 11 des Hébreux, n'est-ce pas, tous ces témoins qui attendent, qui nous attendent, mais eux aussi vont participer à la gloire, bien sûr. Et sur la base de la victoire emportée par le Seigneur Jésus. Il faut donc que tous les hommes de foi soient rassemblés, tous ceux dont le Seigneur s'est donné le volume. Il y a un numerus clausus que Dieu s'est fixé. Il s'est fixé, puisque la Bible nous parle du dernier homme qui entrera. Et à partir de ce moment-là, alors c'est fini. C'est fini, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un certain nombre d'hommes que Dieu a en vue, qu'il faut rassembler après la victoire de Christ sur Satan. Si Satan avait été jeté dans les temps de feu, trop tôt, comme d'aucuns le suggèrent, disons, on aurait été bien tranquille, puisque Satan est condamné. Nous sommes là, n'est-ce pas, toujours en but à sa séduction, et lui et les démons, ces esprits méchants dans les lieux célestes, contre lesquels nous-mêmes nous avons à lutter. Alors, si Satan avait été mis tout de suite dans les temps de feu, saurions très bien, il y en a qui pensent cela, n'est-ce pas? Évidemment, ils ne réfléchissent pas, il faut méditer et réfléchir autrement que cela. Si Satan avait été jeté dans les temps de feu, avant Gethsémané la croix, là il y a un peu, si vous voulez, vous voyez une échelle des temps. Bien sûr, la distance entre les différentes mentions n'est pas proportionnelle au temps qui s'écoule, naturellement, ça, je ne vais pas chercher ça. Il m'aurait fallu un tableau très haut. Alors, voyez, n'est-ce pas, Dieu permet la création. Il permet la création. À ce moment-là, Satan est déjà, a déjà entrepris son expérience, il a déjà voulu se faire l'égal du Très-Haut. Bien, alors il y a le mal est déjà né. Le mal, avec Satan et les anges de Satan, comme ils sont nommés, les démons. Alors, Dieu crée l'homme, création de l'homme sur la terre. Bien, et il le met à l'épreuve. Et il laisse Satan entrer dans le jardin d'Éden comme tentateur. Et il met même un objet de la tentation, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est donc que Dieu a en vue de constituer une humanité et de la sauver. Alors la chute, eh bien Dieu ne pouvait, bien sûr, il l'a prévu, puisque il a prévu de sauver les hommes dès avant la fondation du monde, par conséquent dès avant la création de l'homme, par son Fils Jésus-Christ, comme nous le dit le chapitre 1 des Éphésiens. Alors, voici que, au bout d'un temps, intervient l'incarnation. La parole de Dieu vient, et Dieu introduit, comme c'est dit, introduit le premier-né dans le monde. L'incarnation. Si Dieu avait ici supprimé Satan à ce moment-là, c'est-à-dire avant même Gethsémané et Golgotha, eh bien, aucune victoire n'était remportée. Alors, qu'arrivait-il? Eh bien, c'est que les hommes qui avaient vécu, l'humanité qui s'était formée, n'étaient pas sauvés. Bon, ça c'est facile à comprendre, mais enfin, je le dis quand même, pour que nous puissions faire un raisonnement complet. Alors, intervient Gethsémané et Golgotha, c'est-à-dire le crucifiement de Jésus. Alors là, la victoire, elle est remportée. Si à ce moment-là, puisque la victoire est remportée, Dieu jetait Satan dans l'étang de feu, à ce moment-là, eh bien, c'est très bien, on pourrait peut-être, on considérerait que des hommes, par l'action rétroactive de la victoire de Christ, seraient sauvés, des hommes qui ont vécu avant, mais les hommes, Dieu se priverait des hommes qui vont venir ensuite. Or, il n'entend pas se priver de cela. Alors, voici que la victoire est donc remportée ici. Elle est remportée. La victoire est là. Satan est condamné. Il est déjà jugé. Il y a un jugement de condamnation. Il est condamné. Et cependant, l'exécution du jugement est différée. Elle est différée. Intervient, parce que Dieu a ce plan, intervient la Pentecôte. De la Pentecôte provient tout le temps de l'Église, et puis le temps de l'Église alors s'arrête avant les jugements, viennent les jugements, vient la parousie, à ce moment-là Satan est jeté, est enfermé dans l'abîme, il est mis en prison, et puis il est délivré à la fin des 1000 ans. Et puis alors là, il montre ce qu'il sait faire toujours, n'est-ce pas, la séduction, il continue, il ne peut pas faire autre chose. Il est lui-même lié par la direction qu'il a prise, et alors, tout de suite après, il est jeté dans l'étang ardent de feu. C'est donc ici, n'est-ce pas, que se situe l'exécution de sa condamnation. Il faut que l'Église dispose d'un temps de plusieurs siècles, car autrement, il n'y aurait eu qu'une partie des hommes que Dieu désirait sauver, et qui l'auraient été, et encore est-il, n'est-ce pas, que avant la venue de Jésus sur la terre, avant l'incarnation, c'était la préparation d'un temps qui devait venir. Donc Dieu avait en vue l'Église. Il avait en vue l'Église, et il fallait donc que la condamnation de Satan, qui intervient du fait de Gethsémané et de Golgotha, fut différée dans son exécution. Elle est seulement différée. Et il faut que l'Église, mes amis, l'Église qui va, au cours des siècles qui lui sont ménagés, il faut que l'Église ait en face d'elle Satan. Et tout ce monde démoniaque, Paul nous le dit, n'est-ce pas, ces dominations, ces autorités, ces esprits méchants qui sont là dans les airs et qui nous font lutter, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais contre ces autorités-là. Et il faut que l'Église ait à lutter, pourquoi ? Pour son salut. Pour son salut. Parce que, mes amis, la foi sera, puisque le mal est entré dans le monde, c'est pas Dieu qui l'a créé, c'est Satan. Mais puisque le mal est là, et que Satan répand le mal et excite les créatures de Dieu au mal, eh bien, alors ces créatures vont recevoir en elles une force, les lois de Dieu vont être écrites dans les cœurs, et avec ça, armée de la victoire du Seigneur Jésus-Christ, leur maître, leur sauveur et leur seigneur, alors avec ça, ils vont devoir manifester la foi dans une victoire contre la puissance du mal. Et c'est ça le sens de notre vie chrétienne. Une lutte, un combat, le combat de la foi. Et en définitive, ce que le Seigneur désire, ce sont des vainqueurs. Il veut des vainqueurs. Mes amis, rendons-nous bien compte du plan de Dieu, n'est-ce pas? Il faut être dans ce plan-là. Des vainqueurs, il veut des vainqueurs. Il veut, par conséquent, que la lutte continue. Et c'est pourquoi Satan n'est pas jeté maintenant dans les temps ardents de feu. Quand le dernier sera rentré, alors là, ce sera une autre affaire. Voyez, n'est-ce pas, il faut voir tout cela. Et les hommes qui auront donc eu la foi, et j'espère que nous sommes de ceux-là, hommes et femmes qui auront eu la foi, qui se seront servis par la foi de la victoire de Jésus, qui vraiment auront senti en eux la force, la puissance que leur procurent les lois de Dieu accomplies par Jésus-Christ. Ils ont des lois toutes accomplies en eux, ils ont cette force, c'est écrit dans leur cœur. Alors, ces hommes-là auront lutté, leur foi sera aguerrie, ils seront rendus inébranlables. Notre foi doit nous amener à cette situation-là, nous rendre inébranlables pour l'éternité. Il ne s'agit pas qu'on recommence plus tard l'expérience de Satan. C'est très, très vaste tout ça, n'est-ce pas? C'est très important en général. On ne réfléchit pas assez à ces choses-là. Alors, on accepte évidemment ce que dit l'Écriture, pas, mais dans le fond, on ne cède pas à l'invitation de Jésus qui nous dit « Mais comprenez ces choses! Comprenez donc! Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu, disait-il. » Aux Sadducéens, il faut comprendre toutes ces choses-là, hein, pour voir toute la lumière de ce plan de Dieu. Ainsi, Satan a triomphé de l'homme et il domine sur lui selon un principe qui est exprimé dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Or, comme Satan, par sa ruse, a triomphé d'Adam et d'Ève, eh bien, il a pris la domination sur l'homme, sur Adam et sur toute l'humanité. Alors Christ va reprendre cette domination à Satan et le conduire, lui, au jugement qui le condamne. Alors, pour que l'homme soit sauvé, il faut qu'il s'appuie sur la victoire de Christ par le moyen de la foi, c'est le seul moyen qui lui est donné, seul moyen efficace. Il faut qu'il s'appuie sur la victoire de Christ et qu'il en fasse sa force spirituelle. Car c'est spirituellement que l'homme est vainqueur. L'homme n'est pas vainqueur autrement que spirituellement. Il n'est pas vainqueur par une force morale, par une action psychique sur lui-même. Parce que là, n'est-ce pas, ce serait encore la chair. Il est victorieux, il est vainqueur, spirituellement, tout se passe dans la région de l'esprit. Tout est affaire spirituelle, d'esprit. La chair ne sert de rien. Si, dans un sens, elle sert à quelque chose. Mais pour cette lutte, elle ne sert de rien. Tout est dans l'esprit. Alors nous allons le voir cela parce que c'est important. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, nous avons ce magnifique cantique de Dan, la mère de Samuel, la future mère de Samuel. Ce cantique, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre de l'inspiration, voilà une femme qui ne sait pas grand-chose, mais son âme est livrée à Dieu. son âme est transparente et l'Esprit de Dieu vient là et lui fait dire des paroles merveilleuses. Alors nous allons lire 9 à 10. Elles sont prophétiques, ces paroles de Dan. Chapitre 2, verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Vous voyez, l'homme ne triomphera point par la force, c'est-à-dire par sa force à lui. Hein? Les ennemis de l'Éternel trembleront, du haut des cieux, il lancera sur eux son tonnerre, l'Éternel jugera les extrémités de la terre, c'est-à-dire toute la terre sans rien en excepter, l'Éternel jugera, il donnera la puissance à son roi, et c'est-à-dire au Messie, et il relèvera la force de son oint. Vous voyez, il relèvera la force de son oint. Et nous avons là, bien sûr, une échappée prophétique, lointaine, déjà lointaine à ce moment-là, sur l'œuvre du Seigneur Jésus, Dieu qui donne la puissance à son roi, mais son roi a pris une humanité telle que la nôtre pour lutter par ce moyen, et il relève la force de son oint, la force humaine du Seigneur Jésus. Il y a un ange qui vient fortifier le Seigneur Jésus. Hein? Eh bien, c'est admirable que cette humble femme, hein, qui venait tout simplement pour recevoir la grâce d'un enfant, et c'est admirable qu'elle puisse prononcer des paroles comme celle-là. Voyez, alors donc, l'homme ne triomphera point par la force. Ça, c'est un grand principe de Dieu. Lisons maintenant dans le psaume 68 et le verset 4. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Les justes, ceux donc qui sont justifiés, regardés comme justes, à qui la justice est imputée, ces gens-là triomphent. Si, ils sont la justice, mais seulement il ne s'agit pas de dire simplement, moi j'ai été converti, le Seigneur m'a justifié, il m'a couvert de la justice, merci Seigneur, je vais me promener, hein, et je vais aller muser à droite et à gauche, je m'occupe plus de rien, c'est fini. Ah non, il s'agit d'une justice qui se maintient, les justes justement, les justes sont ceux qui restent justes, ils ont été justifiés, mais ils le restent, et c'est ça. Qui est important. Alors cela, si nous restons justes, eh bien, nous triomphons devant Dieu. Sous les regards de Dieu, nous triomphons de tout, parce que, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, tout a été prévu, organisé par Dieu dans le cadre de cette alliance nouvelle, pour que nous triomphions si nous sommes justes, si nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus, et si nous maintenons les conséquence de cette justification par la sanctification. La sanctification qui continue la justification et qui empêche d'en perdre l'avantage, le bénéfice. Alors là, nous triomphons. Nous sommes dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Mais tout est spirituel, vous le voyez. Hein. Évidemment, cela fait appel à notre vie. Notre vie elle-même doit manifester la sanctification. Mais la sanctification ne vient pas de l'homme. La sanctification se manifeste dans la conduite de l'homme, mais elle est de provenance purement spirituelle. Nous avons aussi le psaume 149, verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Voyez, que les fidèles de Dieu, qu'ils triomphent. C'est leur vocation, la vocation qui est la nôtre, c'est de triompher, c'est d'être dans la victoire. Qu'ils triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de voix, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, c'est-à-dire l'épée de l'esprit. tout est spirituel, est de nature spirituelle. Je ne cesse de le dire, la vie chrétienne est d'essence spirituelle. Si elle n'est pas d'essence spirituelle, n'est-ce pas, elle devient tout simplement une religion à ras de terre qui n'a aucune efficacité, aucun sens. Elle n'est pas autre chose qu'une religion imaginée par les hommes et voulue par les hommes. Il faut qu'elle soit de nature surnaturelle, de nature spirituelle. Il est dit aussi que Jésus fait triompher la justice, et puis alors il est dit dans 2 Corinthiens 2,14, Dieu nous fait triompher en Christ. Il nous fait triompher, il nous tient dans le triomphe sur Satan, sur toutes les dominations. Et puis enfin dans Jean, il est dit aussi, et la première épître de Jean, ce qui est né de Dieu, nous sommes vraiment nés de Dieu, ce qui est né de Dieu triomphe du monde, parce que Christ a vaincu le monde. Prenez courage et vaincu le monde. Hein. Il a vaincu le monde, alors nous triomphons du monde, c'est-à-dire, n'est-ce pas, je le disais tout à l'heure, de ce théâtre. Le monde, c'est le théâtre où les puissances démoniaques, les puissances ténébreuses se donnent libre cours, c'est leur théâtre, c'est leur champ d'action. Le monde, c'est ça. Surtout dans l'évangile de Jean. Gethsémané et la croix sont des événements qui atteignent le monde entier. Mes amis, il faut que nous élargissions un peu notre vision, nos pensées, nos vues. Il faut demander au Seigneur qu'il éloigne les pieux de notre tente pour nous donner de l'espace, n'est-ce pas ? Nous avons besoin d'une vision qui soit large. Gethsémané et la croix sont des événements qui atteignent le monde entier. Ce que vous voyez se produire maintenant dans le monde entier résulte de Gethsémané et de la croix. Une victoire a été remportée, elle est là, entière, définitive, et ses conséquences sont éternelles, mais elles se font déjà sentir dans le royaume de Satan. Et la preuve, c'est que Satan est comme un lion qui se sent traqué, un lion rugissant, il sait qu'il en a pour peu de temps. Tout ça, l'Écriture nous le dit, n'est-ce pas ? Et alors, il rugit. Il essaie de redoubler de force. Il va redoubler de force. Il va introduire, lui, dans le monde. Dès que le Saint-Esprit lui permettra, il va introduire dans le monde son homme, l'Antichrist, dans lequel il viendra, comme il est venu dans Judas. Judas et l'Antichrist, nous l'avons déjà dit, ce sont les deux hommes dans lesquels Satan prend place personnellement. Il le sait, il va mener la lutte par tous les moyens dont il peut disposer jusqu'à la fin. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que le monde est véritablement secoué et bouleversé par la mort expiatoire de Jésus, par la victoire de Jésus. L'univers même est jugé. L'univers est jugé, tous les démons sont jugés. Ne viens pas, disent les démons à Jésus, ne viens pas nous faire, nous introduire trop tôt dans l'abîme. Ils savent bien cela. Par sa mort, donc, Jésus provoque la crise définitive de l'histoire des hommes et même de l'univers, qui a été perturbée par Satan et par les démons. Jésus, victorieux de Satan à Gethsémané, mourant à Golgotha, exerce sur la marche de l'histoire une action décisive et éternel. Et c'est pour ça que Jésus, comme il nous le dit dans l'évangile de Luc, chapitre 12 et verset 50, chapitre 12 et verset 50, Jésus a hâte Il a hâte quand il est sur la terre. Il a hâte de mourir. Il est un baptême dont je dois être baptisé, c'est sa mort. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. C'est pas qu'il est impatient pour, vous comprenez bien, on ne peut pas prêter de faux sentiments au Seigneur pour que ce soit vite passé, parce que c'est un moment très, très douloureux, très dur, n'est-ce pas? Non, c'est pas ça. Il hâte, bien sûr, dans une pensée noble, d'une pensée pure, une pensée magnifique, il hâte parce que il faut qu'il exerce cette action capital, terrible, éternel, sur ce monde. Il a hâte que cette action soit là, soit faite, soit réalisée. Il a hâte de mourir, n'est-ce pas? Il porte, lui, le destin des hommes et le destin du monde. Aussi bien, n'est-ce pas, le destin de ceux qui iront dans les temps de feu, que ceux qui iront avec lui dans la cité céleste, ils portent tout cela. Et notre monde aujourd'hui, nous devrions nous voir cela. Moi, de temps en temps, enfin presque, si je le peux, journellement, j'écoute un peu rapidement les informations, parce que il faut voir ce monde se débattre, littéralement. Le monde se débat. Ce débat, le monde est dans un filet. Satan est dans le filet aussi. C'est pas, ils sont pris, ils se débattent. Et pour sortir du filet, bah, il faut saisir la main de Jésus-Christ. Voilà, tout simplement. Mais ils ne le veulent plus. De moins en moins aujourd'hui, l'incrédulité est massive sur la terre. Maintenant, avec l'intelligence, la science et tout ce dont l'homme se targue, l'homme qui se veut adulte, l'homme qui se veut total, l'homme total. Alors, on ne veut plus de foi, on ne veut plus de la parole de Dieu. Jésus-Christ. D'aucuns, une partie de l'humanité lui garde encore un certain respect. Mais c'est tout. Et encore pas tout le monde. Mais c'est tout, n'est-ce pas? Mais de reconnaître qu'il est le Fils de Dieu, reconnaître que sa mort sur la croix est une victoire éternelle. Ça, non, maintenant, on ne le veut plus du tout. Satan, partout, a éteint le feu que Jésus était venu mettre sur la terre, au point que ce feu de l'amour, ce feu de la ferveur, ce feu, l'amour se refroidit, l'amour s'éteint, a dit le Seigneur Jésus, l'iniquité grandit. Alors, le Saint-Esprit, un jour prochain, va partir, car le Saint-Esprit va partir avant l'Église, attention. Le Saint-Esprit va partir, l'Église, elle, va voir l'impie. Dans son apparition, elle va voir l'impie. Et elle le verra, je ne sais pas combien de temps, elle le verra, puis elle s'en ira, elle, et l'impie, c'est-à-dire l'Antichrist, entrera dans cette phase, la deuxième partie de son règne, cette phase redoutable, terrible. La première partie sera euphorique, et dans la deuxième, alors ce sera les jugements. Les jugements, les fléaux vont tomber là, l'Église sera partie. Mais attention, il faut que l'Église voie, il faut, avant notre réunion avec le Seigneur, il faut que paraisse l'impie. C'est une disposition divine, l'Église doit voir paraître l'impie, l'Antichrist. Alors, n'est-ce pas, le monde est actuellement sous le poids extraordinaire des conséquences de Golgotha et de Gethsémané. Ça a bouleversé le monde, ça va le bouleverser d'une façon alors sensationnelle et visible. Quand Jésus viendra, il y aura les fléaux, la terre va être réduite en un champ de ruines, et puis alors après, le Seigneur Jésus descend, mais descend dans la gloire de Dieu, son Père, cette fois-ci pas comme le Messie souffrant, mais comme le Messie pour le règne. Il vient dans la puissance de Dieu, avec tous ses saints, toute l'Église, qui est devenue l'épouse. À ce moment-là, un bouleversement extraordinaire sur cette terre qui va reprendre la beauté première qui a été la sienne quand elle a été créée par Dieu, la palingénésia, le nouvel engendrement. Ça, c'est quelque chose de magnifique et de considérable. Et tout cela vient de Golgotha, mes amis. Vous me direz, suivi de la résurrection, bien sûr, mais tout cela vient de Golgotha. C'est Gethsémané, Golgotha, c'est là la cause, la grande cause, le grand acte de la justice divine qui sauve les hommes, mais qui bouleverse ce monde tout entier. Et cela, il faut que nous ayons une vue qui soit celle-là, n'est-ce pas, une vue large sur ces choses. Nous ne pensions pas simplement que la croix, c'est pour le petit garçon ou la petite fille qui croit en Jésus. Alors pour lui, tout à coup, oui, il y a la croix. Bien sûr, il y a la croix. Mais il y a la croix pour le monde. Pour le monde tout entier, il y a la croix même pour les anges. Non pas pour sauver les anges, mais il y a la croix parce que les hommes jugeront les anges impies. Et par conséquent, les faits, les conséquences de Golgotha sont extraordinaires, elles sont cosmiques, si on peut dire, n'est-ce pas? Elles s'étendent, et maintenant le monde est travaillé à cause de ça. Il est travaillé par Satan, mais il est travaillé par Satan parce que il est sous le poids, précisément, de Golgotha. La croix de Golgotha pèse terriblement sur ce monde. Il faut que nous sachions ces choses et que notre foi se ragaillardisse à la connaissance large de toutes ces choses. Nous continuerons demain.